Il est 8h20. La famille du jeune Frédéric Gagné, qui a survécu une tentative de meurtre perpétrée par son propre père, se remet tranquillement du drame qui est survenu le 14 novembre dernier. Il est âgé de 24 ans. Il a reçu une balle en plein visage alors qu'il dormait dans son logement de la rue Montpetit. Je parle de Frédéric Gagné. Le tireur, c'était son propre père, qui s'est enlevé la vie d'ailleurs dans les instants qui ont suivi. Et l'histoire avait toutes les apparences d'une querelle père-fils, hein, comme on en voit. Qui a mal tourné. Mais non, ça a été très troublant d'apprendre que son père était atteint de troubles mentaux, problèmes de santé mentale qui étaient méconnus de ses proches. Avec nous en studio, Roxane Laflèche et Manon Lepage. Roxane, la sœur de Frédéric, Manon, la mère de Frédéric. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, ça va bien. De jour en jour, ça va mieux, là. C'est sûr que le temps des fêtes a fait du bien, mais il y a des bonnes et des mauvaises journées encore, là.
Vous, Manon, la maman, comment ça a été le temps des fêtes pour vous?
Ça a été plus difficile. C'est sûr que le temps des fêtes est différent cette année. Ça a été émouvant de se retrouver tout le monde, mais dans un contexte où c'est pas facile. On veut être heureux. En même temps, on a de la peine, mais moi, je suis contente d'une façon. J'ai mon garçon avec moi. C'est ça, ma récompense.
C'est
mon plus beau cadeau.
Pour une maman, c'est ce qui est le plus important, d'avoir son enfant encore là.
Exact. Ça, c'est mon cadeau. C'est mon plus gros, mon beau cadeau.
Comment il va, Frédéric?
Il va mieux. Il s'est fait opérer le 21 novembre. Fait que c'est certain que physiquement, la guérison va de mieux en mieux. On a justement un suivi là, cet après-midi à Montréal. Mais c'est certain que c'est mentalement. Il y a des bonnes puis des mauvaises journées. Je pense qu'il ne sait pas trop comment se sentir là-dedans. Je pense qu'il y a des attentes envers les autres de comment il devrait se sentir. Puis lui, des fois, il est comme tourmenté à l'intérieur. On essaie d'être là pour lui puis de vraiment de dire « Tu nous parles quand tu as besoin de nous parler. » Puis il n'y a pas un livre écrit de comment tu es supposé te sentir puis tu as le droit de vivre tes émotions comme tu veux. On essaie de le supporter, là.
Est-ce qu'il est capable d'en parler?
Il y a des matins qu'il se lève, il va m'en parler, mais il est mélangé dans ses sentiments.
Est-ce qu'il en veut à son père?
Oui, il en veut, mais en même temps, il ne veut pas y en vouloir parce qu'il me le dit, tu sais, je l'aime, papa, je l'aimais, oui. Mais il peut pas se permettre parce qu'en même temps, quand il pense à son père qu'il aime, mais quand il pense aux gestes qu'il a posés, c'est là, à ce moment-là, que c'est difficile pour lui de pouvoir encore l'aimer. Pour moi, c'est pas question que, bon, moi, à son père, je pardonnerai jamais.
Vous étiez plus avec en passant.
Non, moi,
En relation, c'était terminé la relation là, couple, à ce moment-là.
Ça faisait 22 ans qu'on n'était plus ensemble. On se parlait, il n'y avait pas de chicane entre nous deux.
Quelle était la relation, avant tout ça, entre Frédéric et son père?
Ils ont toujours eu... quand mes parents se sont séparés, on a toujours eu une garde partagée, mais je vous dirais que plus on approchait la vie adulte, mon frère, comme par défaut, était plus chez mon père, moi, j'étais plus avec ma mère. Puis je vous dirais, mon père a toujours été quelqu'un de très control freak, si je peux dire, là. Jamais à ce point-là, mais la relation qu'il avait avec mon frère, à mes yeux, à moi, était très contrôlant. Mon frère a tout le temps été traité un peu comme un enfant à ses yeux. De là, je pense, un peu le geste qu'il a posé. Dans sa tête, à lui, Frédéric pouvait pas vivre indépendamment sans lui, ce qui est pas vrai, vraiment. Il a jamais laissé la chance de vivre sa vie d'adulte. Il avait 24 ans, il vivait encore avec lui. C'était deux appartements.
Est-ce que les deux vivaient ensemble dans le...
Ils vivaient ensemble, c'était dans le même bloc.
Même bloc, OK.
C'était deux appartements, mais il y avait accès entre les deux. Donc, vraiment, ils vivaient encore ensemble. Mais mon frère, il le disait...
Sentait étouffé dans cette relation-là, Frédéric, d'un père omniprésent?
Je pense que oui. Je pense qu'avec du recul, maintenant, il le voit beaucoup. Je vous dirais que quand il était dans la situation, il ne se sentait pas nécessairement étouffé. Pour lui, il ne connaissait pas autre chose. Puis il était dans cette relation-là. Il faisait confiance à mon père. Mon père, dans sa tête à lui, mon père le supportait puis l'aidait à vivre sa vie. Maintenant, avec du recul puis les discussions qu'on a eues après ce qui est arrivé, c'est certain que mon frère réalise qu'il s'en veut d'être... rester, si tu veux, là-dedans, parce qu'il se sent comme s'il a été utilisé un peu. C'est certain que là, les choses sont biaisées à cause de ce qui est arrivé. La bonne chose qu'on dit, c'est qu'il a juste 24 ans, justement, puis qu'il a la vie devant lui pour faire sa propre vie puis prendre ses propres décisions.
Quand on parle de cas de santé mentale, vous ne le saviez pas avant ces événements-là, ou l'événement, en fait?
Jamais j'aurais pensé.
Pas bien, ou...
Jamais j'aurais pensé que ça allait pas bien à ce point-là.
Il n'y a pas de signe.
Maintenant, j'ai eu des discussions avec des gens par après, parce que dans la dernière année et demie, j'ai pas eu beaucoup de discussions avec mon père, dû au fait que j'étais pas nécessairement d'accord avec la relation qu'il y avait avec mon frère. Jamais ça a été une question de santé mentale ou de problème de ce point-là. Là, maintenant, avec du recul, j'ai eu des discussions avec des gens qui l'ont côtoyé ou qui ont eu des discussions avec lui dans la dernière année. Puis en mettant les pièces du puzzle ensemble, c'est certain que il y en avait des gros problèmes. Je pense pas que personne n'aurait vu parce que personne voyait l'ensemble de la situation. Là, ce qui arrive, c'est qu'avec la situation, tout le monde s'est mis à avoir des discussions de ici et là, puis on réalise que c'en était des gros problèmes de santé mentale, mais jamais, 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 même de prendre sa propre vie, jamais j'aurais pensé, là.
Est-ce qu'on s'en veut après de ne pas avoir réalisé ça ou d'avoir vu ça? Comment on réagit en tant qu'être humain?
Moi, personnellement, oui, je m'en veux de ne pas avoir vu tout ça par rapport à Frédéric, mais... Je suis sûre que je ne peux pas m'en vouloir le restant de mes jours, mais...
Non, absolument.
Mais j'aurais aimé quand même voir un peu ce qui se passait. J'aurais bougé, j'aurais...
Je pose la question parce que l'être humain a tendance à se culpabiliser. On ne devrait pas. C'est pour ça que je me demande si vous en voulez de ne pas avoir vu ça. Ce n'est pas une responsabilité, là, mais c'est une réaction humaine que vous avez eue?
Moi, en tant que mère, oui, je vais dire que je m'en veux. Parce que si j'aurais été plus présente, pas présente, j'étais présente, mais j'aurais plus été là. Mm-hmm. Ben là, j'étais plus, c'est sûr, là, mais ouais. J'aurais peut-être plus vu les choses, c'est ça qu'il y aurait, c'est difficile à expliquer, mais oui.
Mais je peux comprendre ce que vous ressentez en disant, voyons comment ça se fait que j'ai pas vu ça, mais c'est souvent normal de pas l'avoir vu.
Mais jamais en 100 ans, j'aurais pensé que son père aurait fait ça.
Ben, est-ce qu'il est à la base, son père, là? Est-ce qu'il était de nature violente ou pas du tout?
Violente, non. Je veux dire, peut-être qu'il était impatient, il levait le ton, mais jamais, j'aurais jamais qualifié de nature violente. Je l'ai jamais vu faire du mal à personne physiquement, non. Je l'ai vu avoir des arguments, s'obstiner avec des gens comme verbalement, mais violente, jamais ça aurait été ça. Je l'aurais jamais décrit comme étant violent.
Manon, c'est votre ex, mais ça fait combien de temps vous étiez plus ensemble, vous dites?
Ça fait 22 ans.
Bon, ouais. Est-ce que vous le détestez aujourd'hui? Quels sont vos sentiments?
Oui, effectivement, oui. Aucune compassion, je peux pas. T'sais, j'essaie d'avoir de la compassion pour mes enfants, c'était le père. Pour Roxane, c'est autre chose, ça me fait de la peine pour elle, que ça soit arrivé, puis en même temps, qu'elle ait fait ça à mon fils. Oui, je le déteste. Parce qu'aujourd'hui, là, il est là présentement, mais s'il n'aurait pas été là, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui.
Non, hein?
Je pourrais pas.
Parce qu'une mère, ça demeure une mère. Son enfant, c'est son enfant. Je veux dire, quelque part, il ne faut pas toucher à ça.
C'est surtout qu'il a pensé de partir avec en disant, ben, il va être tout seul, puis qu'il l'amène avec lui. Mais moi, j'étais là. Fait, c'est difficile à accepter. Je vous dirais que je pourrais pas. Je pourrais pas y pardonner.
Roxane, vous, c'était votre père. C'est quoi vos sentiments envers lui aujourd'hui? Parce qu'il a quand même tenté de tuer votre frère.
Moi, honnêtement, c'est là que je vois que tout le monde vit un deuil différemment. Moi, depuis jour 1, je le dis, c'est de la pitié plus. Je ne suis pas capable d'y en vouloir parce que j'arrête pas de me mettre dans sa peau puis de me dire, pour en venir à ça, à quel point il était malheureux, tu sais. Puis dans ma tête, tout ce qui tourne, c'est ce moment-là entre quand il a essayé de tuer mon frère. Puis, je veux dire, le temps qu'il marche jusqu'au parc puis qu'il s'est enlevé la vie, là, je peux pas m'enlever de la tête ce moment-là. Peu importe qu'est-ce qu'on dit, peu importe dans quelle situation mentale il était, il y avait de la peine. Là. Il était malheureux. Pendant ces 5-10 minutes-là, là, c'est impossible. Je le connais, mon père. Fait que je me remets à sa place à ce moment-là. Puis je veux dire, pour avoir vécu 5 à 10 minutes en sachant que tu viens de tuer ton fils parce qu'il pensait l'avoir tué. Fait que moi, c'est de la pitié, vraiment. Puis mon frère le vit différemment, comme tout le monde. Puis je me dis, on a tout le droit de vivre notre deuil différemment. Moi, c'est vraiment... Je trouve juste ça désolant, toute la situation complète. Je voudrais pouvoir enlever la situation plus pour mon frère. T'sais, j'essaie d'être forte beaucoup pour lui parce que lui est encore mélangé dans ses sentiments.
Et Frédéric, sa relation avec son père aujourd'hui, c'est quoi?
Il est encore mélangé. Je dirais, il trouve ça dur parce que là, tout le monde lui dit, un jour, tu vas le pardonner, il faut que tu lui pardonnes. Puis lui, ça le forge de se faire dire ça parce que il dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais le pardonner. Je ne sais même pas si un jour je vais le pardonner. Lui, sa pensée, c'est de dire, pourquoi il n'est pas juste parti? J'aurais pu pleurer sa mort et avoir de la peine pour
lui. Pourquoi il a voulu m'entraîner?
Exactement. Ça teinte un peu le fait que là, il est parti parce qu'il voudrait pouvoir pleurer puis passer à autre chose, faire un deuil normal puis dire adieu à son père. Mmh. Mais il a à vivre à tous les jours avec l'image de, il a essayé de m'enlever la vie. Pourquoi? Puis mon père a écrit des lettres, mais pas à Frédéric parce qu'il pensait l'avoir tué. Fait que mon frère a bien des questions qui ne seront jamais répondues à cause de ça.
Il a écrit des lettres, votre père, à qui?
Oui. Il m'a écrit une lettre à moi. Puis il a écrit une lettre qu'on n'a pas encore vue, que la police a, de 17 pages, au coloc à mon frère, dans le fond, avec qui il vivait. Il était pratiquement comme un fils pour mon père aussi. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est beaucoup des instructions sur quoi faire après qu'il soit parti. Là,
vous, dans... peut-être pas rentrer dans les détails, ça ne nous regarde pas, mais en même temps, dans la lettre de votre père, en gros, qu'est-ce qu'il vous a écrit?
En gros, il m'écrit un peu les raisons du pourquoi il est parti, lui, de pourquoi il souffrait. Fait qu'il m'énumère un peu ça.
Les raisons. Il souffrait. Qu'est-ce que vous a dit? Qu'est-ce que vous a donné?
Dans le fond, ça faisait des années qu'il était sur la CSST, un peu. Puis il disait qu'il était tanné de se battre avec la CSST. Dans le fond, il y avait des plans pour un chalet, puis tout ça, qu'il bâtissait. Puis il m'a dit, j'avais plus de rêve de chalet.
Donc, il n'avait plus de rêve dans la vie?
Non, c'est ça. Puis lui, il m'a dit, la terre fout le camp en l'air. Fait que dans sa tête, tout était noir, là.
Tout est fini.
Oui.
Frédéric, est-ce qu'il te voit, est-ce qu'il a de l'aide professionnelle? Voici un psychologue?
Oui, dans le moment, oui, il voit un psychologue. Mais il veut pas vraiment parler. Il sent pas le besoin de parler à un psychologue dans le moment. Okay. Dans le moment, il est comme... Il nous parle à nous, même... Il va nous parler à nous, mais... Il reste encore que c'est en dedans, il ne sait pas comment le sortir, puis il veut pas être forcé à le dire. Je pense qu'il va attendre son moment où ce qu'il va être prêt à dire, ce qu'il ressent vraiment. Parce que je pense que il sait pas dans quel mot, puis même si un étranger il parle, il a l'impression qu'il parle à quelqu'un puis qu'il ne comprend pas ce qu'il a vécu. Mm-hmm. C'est le même, tu sais, souvent il va nous dire vous comprenez pas comment je me sens en dedans. C'est sûr qu'on comprend pas, on n'est pas à ta place, puis je pense que ce que tu vis, c'est énorme. Mais il va finir par plus parler, par avoir besoin d'y aller plus. Mais dans le moment, il n'est pas prêt.
Il n'est pas prêt. Il aura besoin d'aide, d'où la campagne de financement également à GoFundMe, parce qu'il y a des frais rattachés à des tragédies comme ça. Là.
Oui, beaucoup, puis encore plus que ce qu'on aurait pensé. Honnêtement, quand ils ont parti la campagne de financement, initialement, c'était à 10 000 $ le maximum, puis on l'a augmenté par la suite. Puis honnêtement, juste les 3 semaines qu'on a passé à Montréal avec lui, parce que dans le fond, du 14 novembre, la journée que c'est arrivé, jusqu'à temps qu'il soit libéré, qui était à la fin du mois de novembre, 3 semaines de temps, là, ça paraît pas, là, mais Colin, l'argent, ça va vite. Juste la nourriture, rester là-bas, le gaz... 3 semaines de parce temps à ne pas être dans nos choses. Là.
Parce que vous êtes avec lui là-bas, tu ne peux pas laisser...
Non, puis même...
Laisser seul, j'imagine que c'est difficile de laisser...
Non, exactement. Puis juste de revenir ici, c'est pas tous les médicaments qui sont couverts, puis il y en a beaucoup. Il y a eu la reconstruction de la mâchoire. Ça a l'air banal. On se disait un rince-bouche antibiotique, ça ne doit pas être si cher que ça. C'est quand même près de 50 $ la bouteille, puis en passe une aux 2 jours. Comme tout coûte cher, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'avait même pas imaginées. Juste le fait que ma mère a dû arrêter de travailler. Là, mon frère ne voulait pas retourner du tout à son logement. Donc, nous, on s'est occupé d'aller chercher ses choses, de déménager, de tout l'installer chez ma mère. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses.
Parce que maintenant, vous avez quitté votre travail, évidemment, pour épauler votre fils, pour épauler Frédéric.
Oui, effectivement. J'ai pris, à date, 15 semaines de il appelle ça un congé compassion.
Congé compassion.
Oui.
C'est sur GoFundMe?
Oui.
On va où sur GoFundMe pour... vous aider.
Sur GoFundMe, le nom de la campagne, c'est Frédéric et sa famille. Frédéric, c'est avec CK à la fin. Puis également, là, sur les médias sociaux, donc Facebook, il est public, donc tout le monde peut le trouver si vous recherchez Frédéric.
On invite les gens à être très généreux. Donc, vous repartez à Montréal aujourd'hui avec Frédéric? D'autres traitements?
Oui, on a un suivi cet après-midi. Il y avait encore des risques que, dans le fond, il y a eu une greffe d'os dans sa mâchoire. Puis il y a eu quelques complications là, pendant le temps des fêtes. Donc, il y a encore des risques que l'os ne survive pas. Fait qu'il est suivi de près. On se croise les doigts. Là, la pire chose qui pourrait arriver, ce serait qu'ils doivent retourner en opération après tout ça. Mm-hmm. Mais on essaie d'être réaliste, de prendre soin de lui. Là, mais il y a toujours des risques que ça ne marche pas. Là.
Pas facile?
Non, c'est difficile. En même temps, on ne veut pas y monter notre inquiétude. Mais oui, effectivement, je suis très inquiète, c'est ça, mais on espère que tout aille bien après tout ce qui est passé. Là, ça serait pas évident de refaire cette opération-là.
En terminant, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui nous écoute puis qui vit des problèmes en ce moment, puis qui pourrait avoir des idées de, un peu comme son père a fait, là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gens-là qui nous écoutent ce matin, qui ont des problèmes de santé mentale?
D'en parler, de pas se cacher, puis c'est normal. Tout le monde, il y a beaucoup de monde qui font des dépressions, puis personne n'en parle. Ça peut être le voisin, ça peut être n'importe qui, mais de parler, de pas garder ça pour lui-même ou pour elle-même. Il y a plein d'organisations, il y a plein de monde autour, il y a beaucoup de monde qu'on pense pas qu'on a alentour de nous qui pourrait nous aider. On a l'impression d'être seul, mais non. Il faut parler. Il faut en parler. Il ne faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte de ça.
Je pense que la conclusion la plus sage, c'est ça, effectivement.
Ouais.
Faites passer par là, vous le savez.
Exact. Ouais. C'est qu'on n'est jamais seul. T'sais, peu importe ce qu'on peut penser, là, qu'on est seul au monde, c'est jamais vrai. Puis, comme maman a dit, même nous, là, on l'a vu, tout l'amour qu'on a reçu des gens, puis des gens qu'on connaît même pas, puis c'est pas nous qui sommes en détresse, c'est juste les gens veulent aider, puis il y a du bon monde dans le monde. Juste d'en parler, un petit signe, d'aller demander aux voisins, puis si c'est pas nous qui avons des problèmes, de demander aux gens, de prendre la peine de leur demander, comme, ça va bien, t'as-tu besoin de parler, je suis là pour toi. C'est juste de le dire à quelqu'un, je suis là pour toi, moindrement qu'il y ait un petit signe, juste cette petite porte-là qui peut être ouverte, là, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Là.
En terminant, Frédéric devait être avec nous ce matin, mais évidemment, ça a été plus difficile que prévu, je pense.
Oui, il trouvait ça trop difficile d'en parler, nerveux, surtout qu'on part à Montréal ce matin. Ouais. Donc,
La meilleure des chances à Frédéric, la meilleure des chances également à Roxane et Manon. Merci beaucoup de vous être déplacés. On invite les gens à être généreux dans la campagne sur GoFundMe, parce que vous l'avez dit, il y a des frais de rattacher à des tragédies comme celle-là. Quitter son emploi, puis ça coûte de l'argent. On invite les gens à être extrêmement généreux. Roxane Laflèche, Manon Lepage, un gros merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.